RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
L'After, jusqu'à 23h.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, toi.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
François Pinet.
Bonsoir à tous, pour ceux qui nous rejoignent, on est dans l'after depuis une heure déjà, mais il nous reste une heure à vivre ensemble, toujours avec François Manardeau, toujours
bon
là,
soir,
toujours avec Samuel.
Bonjour les amis quoi.
Et voilà. Dans 30 minutes, le Mercato Show, ne manquez pas ce moment, hein, vous en avez l'habitude, lors de cet été, ça sera avec Sarah Griffon cette fois, elle nous donnera des infos sur le Mercato de l'AS Saint-Etienne. Alors si vous êtes supporter des Verts, vous restez bien avec nous, on vous donnera quelques nouvelles. Il y aura aussi le quiz, évidemment, pour gagner un jeu. Et on vous fait gagner ce soir un jeu, le Perrudo. Le Perrudo, c'est le jeu des champions du monde.
Comment vous avez mis ça? Vous avez mis la main là-dessus?
Le
tu Perrudo. Sais que je l'ai vu arriver en équipe de France, ce truc-là, en 2009?
Alors, bah, si tu as vu arriver le Perrudo en équipe de France, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça marche.
Ah, mais moi non plus.
Ah, bon, d'accord, je pensais que tu allais nous expliquer.
Ah, mais pas du tout.
C'est un jeu de dés, un jeu de paris, et les Français sont fans des champions du monde.
Je te raconte, là, c'est
le jeu de Perrudo, couleur de l'équipe de France à gagner. Pour celui qui remporte le quiz, ça sera vers 22h40.
C'est Thierry Henry qui ramène ce truc-là, qui est un jeu, je pense, qui est très, très, très répondu aux Antilles. Et il ramène ça en équipe de France. En même temps, je dis les Antilles, mais il y a une espèce de truc sud-américain dessus. Mmh. Et on était pas mal, dont moi, à regarder certains joueurs jouer au Perrudo. Et tu les voyais, mais dont William Gallas qui était avec nous. Et oui, et il se marrait, il s'engueulait. C'était sympa de les voir. Tu restais 10 minutes à comprendre, une heure à comprendre.
Tu comprends rien.
Jamais rien carré à ce truc-là.
Mais
vous pouvez
ça.
Jouer, hein. C'est ça.
Non, mais je suis sûr
simple,
que c'est sympa. En plus, pendant les vacances, vous avez le temps d'apprendre. Voilà, on vous offre ce cadeau. Mais d'abord, donc, cette question à vous poser, messieurs. Vous pouvez nous joindre, évidemment, au 3216, sur le hashtag RMC Live, sur Twitter. On lira vos messages ou encore sur l'appli RMC Direct Studio. Vous connaissez la chanson. Faut-il laisser les pleins pouvoirs aux entraîneurs pour le mercato? Alors, ça paraît banal comme question, mais ça ne l'est pas tant que ça. Jean-Louis Gasset a demandé une réunion avec ses dirigeants et visiblement il a eu gain de cause. On parlera, on l'a dit, du mercato de Saint-Etienne dans un instant. Il s'est inquiété un petit peu du mercato dans la presse. Il semble vouloir un peu avoir les pleins pouvoirs, en tout cas demander des choses à ses dirigeants. Gustavo Poyet, lui aussi, l'entraîneur de Bordeaux, ne cache pas son mécontentement sur le mercato de son équipe et il agacerait visiblement ses dirigeants parce qu'il ne trancherait pas assez vite certains dossiers. Voilà ce qu'il sortirait de là-bas. Des dirigeants qui ne consultent plus forcément pour le mercato. C'est pour ça qu'on a voulu poser cette question. Est-ce qu'il faut donner les pleins pouvoirs au coach? Est-ce que c'est normal, quand on est un entraîneur, d'avoir les pleins pouvoirs sur le
mercato? Qu'est-ce qu'on entend d'abord par plein pouvoir?
C'est-à-dire choisir les joueurs, choisir le profil.
Un rôle de manager?
Choisir le profil des joueurs, choisir les joueurs avec qui tu vas jouer pendant toute la saison. Parce que d'un côté, en même temps, tu es l'entraîneur. C'est toi qui es en première ligne.
Oui, non, mais choisir aussi les sous que tu vas mettre sur la table pour négocier.
Après, c'est de la discussion aussi.
Bah oui, bah c'est de la négociation, oui. Moi, je pense pas que ce soit la bonne formule dans la bonne gestion d'un club pour la raison que je viens de citer. C'est-à-dire que le coach, il donne le profil de ses ambitions pour la saison à venir et dit voilà, moi, j'ai besoin de me renforcer sur tel et tel et tel, enfin, tel secteur, pardon, tel et tel, ça fait, commence à faire un peu trop. Et puis, c'est le club qui, évidemment, dans la transparence, partage avec l'entraîneur l'enveloppe qui est mise à disposition. L'entraîneur avec le directeur sportif et le président, ou le président partage aussi par rapport aux ambitions de départ, ou bien au fait que le club veuille se séparer de certains joueurs. La mayonnaise prend, mais le nerf de la guerre qui est l'argent dans cette période de l'année qu'on est en train de traverser, à mon sens, ce n'est pas à un entraîneur qui n'a pas l'étiquette de manager, mais ce n'est pas à un entraîneur d'avoir la main sur les cordons de la bourse.
On est d'accord, mais ça c'est dans le meilleur des mondes. On est d'accord que
non, ça existe.
Non, mais que l'entraîneur
dans d'autres
s'entende
sports,
bien avec
cas,
son avec ses dirigeants,
bah, sinon,
que lui propose
pas.
Des noms, que les dirigeants disent OK, on peut y aller sur celui-là ou sur celui-là. Là, ce qu'on voit depuis le début du mercato, et c'est pas qu'en France, hein, Mourinho aussi a mis la pression, mais c'est son habitude sur ses dirigeants, en estimant que le mercato ça allait pas assez vite et qu'on lui offrait pas, assez de joueurs.
Tu sais aussi,
Jean-Louis Gasset, Gustavo Poyet fait la même chose.
Les entraîneurs
mettent la pression en ce moment.
Ils mettent la pression parce que les entraîneurs sont assez souvent qu'elles, les mecs un peu malins, ils voient que si ça ne se passe pas comme ils le souhaitent, ils vont mettre la pression par médias interposés pour faire passer le message, peut-être. Dans, hein, je vois ça me rigoler, tu vois, je veux en venir. Dans trois mois ou un peu plus, si ça rigole pas au niveau des résultats, pour dire, ah ouais, mais moi j'ai demandé des renforts, hein. Et puis on me les a pas donnés, hein. Donc, c'est pas, tout n'est pas de ma faute.
Bah, c'est peut-être pour ça qu'il faut donner les pleins pouvoirs aux entraîneurs.
Non, mais alors,
pour
non, éviter alors, ce genre de choses. Non, mais alors, s'il y a déjà une fracture, alors que la saison n'est pas encore commencée entre la direction de Bordeaux et Gustavo Poyet, c'est déjà un souci. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je suis un peu contre. Je pense qu'il faudrait laisser quand même un pouvoir partagé où, en bon esprit, il faut savoir échanger.
Encore une fois, c'est
le
meilleur
du monde. Non, mais je veux dire,
échanger, on est tous d'accord.
Ouais. Non, mais parce que, pourquoi? L'entraîneur a une philosophie. Il a un schéma de jeu en tête avec des joueurs précis qu'il veut en tête. Effectivement, il faut voir les bourses qui te permettent d'avoir ces joueurs-là.
La bourse.
Donc,
les bourses. Fatigués, excusez-les.
Donc, moi, je pense, honnêtement, maintenant que je vois qu'il y a déjà une rupture chez les Girondins de Bordeaux en disant que effectivement ils traînent trop, mais c'est dû à quoi?
Pourquoi? Non, mais ce qui se passe aux Girondins de Bordeaux, pour être très très clair, c'est quand même que Gustavo Poyet, par exemple sur le dernier match amical, il a fait jouer sans carré avant-centre. Non, mais... une sorte de pression un peu mise, en tout cas c'est ce que est compris par certains supporters de Bordeaux et certains dirigeants peut-être, sur les dirigeants justement, parce qu'il avait sur le banc un, par exemple, Gaëtan Laborde qu'il aurait pu faire jouer en avant-centre. Donc voilà, les dirigeants bordelais visiblement disent que Gustavo Poyet,
mais c'est pas un mauvais exemple,
traîne un petit peu, voilà. Pourquoi ça serait un mauvais exemple?
Parce qu'ils sont en pleine transition, avec une transition dont on a parlé ici, c'est que les M6 gardent la main, et donc celle sur le marché des transferts jusqu'en octobre, et ensuite les Américains arrivent. C'est en ce sens que quand t'es entraîneur dans cette période de transition, avec tu vas changer de tête pensante, donc de tête dirigeante, tu sais que ta mission elle est un peu compliquée, parce que tu sais pas avec quelle enveloppe budgétaire réellement tu vas travailler. M6 dégage ses pions, donc ils vont pas plus mettre une thune.
Non, mais ils doivent savoir, parce que je pense que quand même
les Américains ont dû annoncer quand même 80 millions sur 3 ans. Enfin, on est sur, ils l'ont pas annoncé, mais on sait de par nos envoyés spéciaux que on serait sur ce chiffre-là, 80 millions sur 3 ans. Tu fais rien au niveau des transferts, hein, non, mais, sur une Ligue 1.
Non, mais François, je pense qu'un entraîneur, de toute façon, il est obligé d'avoir la main sur le recrutement. C'est lui qui sait.
Pourquoi
à peu près.
Pourquoi il serait obligé, Sam, d'avoir la main sur le recrutement?
Non, mais parce que
c'est bon gestionnaire, à la limite, je veux bien.
Non, mais sans parler de gestion, il peut.
C'est important.
Oui, mais c'est important aussi qu'il gagne. Je veux dire, c'est important qu'il donne une certaine philosophie à son équipe. Si on te donne des joueurs, Sam, dont t'en as pas besoin, effectivement,
non, mais
parce que.
Achète,
oui, mais parce que effectivement, parce que l'argent ne suffit pas pour pouvoir acheter. Attends, à un moment, il faut comprendre que l'entraîneur, à un moment, il lève la main en disant stop. Moi, je peux pas continuer comme ça.
D'accord. Mais c'est au président ou au directeur sportif ou aux deux de dire, et tu peux lever la main encore plus haut si tu veux. L'enveloppe, elle est de temps. On a un franc, on peut pas dépenser.
Oui, mais
franc
parfois
50.
On impose même des joueurs aux entraîneurs, ce qui fait qu'ensuite les entraîneurs créent des lofts. Vous savez ce que c'est.
Autre chose.
Non, c'est pas autre chose.
C'est un entraîneur qui l'a créé, le loft.
C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont mis de côté par l'entraîneur parce qu'il en a pas voulu et qu'on lui a imposé.
Oui, mais attends. Si la question c'est de se dire, est-ce qu'on donne les pleins pouvoirs à un entraîneur? Mais moi, je comprends la question. On donne les pleins pouvoirs à un entraîneur dans un club bien géré, dans un club mal géré où on crée des lofts, plein pouvoir ou pas plein pouvoir. C'est dans la mouise, hein. Si le club est mal géré et la mauvaise gestion, c'est la tête pensante.
C'est quand même que
c'est le président
d'abord. Souvent, le premier fusible, c'est l'entraîneur.
Et donc l'entraîneur, c'est un petit peu
logique qu'il ait envie d'avoir ses joueurs. C'est l'entraîneur quand même le sportif sait quels sont les manques, où sont les besoins de son équipe, comment il veut faire jouer son équipe.
Bien sûr.
Donc c'est peut-être à lui et à lui seul de choisir les joueurs.
Bien sûr.
Non. En tout cas, le profil des joueurs.
Et effectivement, hein, c'est bien sûr très souvent d'ailleurs quand il fait le choix de ses joueurs, finalement, il peut se faire lourder 3-4 mois après. Mais en tout cas, il sera mort avec ses idées, avec ses joueurs-là. C'est difficile pour un entraîneur de pas avoir son groupe, en tout cas le groupe qu'il a pas choisi. D'ailleurs, on voit hein, certains entraîneurs. Qu'est-ce qu'ils disent quand un entraîneur est limogé et qu'ils viennent prendre l'équipe en cours de route? Ils sont toujours en train de se dire, ah, ça va être difficile, c'est pas le groupe que j'ai choisi. Tatatata. Tu vois, il y a toujours aussi un peu cette excuse-là.
Je vous pose une question. Monsieur Pinet, Monsieur Hupoua, vous êtes président de club et c'est votre argent.
Oui, non, mais je vois où tu veux en venir, François. Mais
vous donnez les pleins pouvoirs à votre coach?
Mais à partir du moment où tu choisis un entraîneur.
Est-ce que vous donnez, pour être encore plus clair, à votre entraîneur, c'est toi qui vas gérer l'enveloppe. C'est pas l'enveloppe que je te donne. C'est toi qui vas me gérer l'enveloppe.
Ça se passe pas comme ça.
On dit pas gérer l'enveloppe.
Non, ça se passe.
Mais on dit que si on choisit un entraîneur en tant que président, puisque je suis aujourd'hui président d'un club grâce à toi, si j'ai choisi un entraîneur, c'est que j'ai étudié un petit peu son profil, j'ai une relation de confiance avec lui, donc je lui fais entièrement confiance
sur
le sportif, pour qu'il recrute. Et même qu'ils me disent parfois, attention là c'est trop cher, attention là il faut y aller, attention là c'est bien.
Moi je pense qu'il faut des garde-fous. Parce que tu as aussi des entraîneurs qui recrutent avec des agents ou un agent qui peut être le leur aussi. Et je pense que par rapport à ces questions liés au recrutement,
c'est vrai qu'il y a des entraîneurs qui sont liés à des agents.
Ils sont tous liés. C'est pas.
Oui, mais ils sont pas tous. Ils ont pas tous.
Il faut pas. Si toi t'es président de club, c'est ta caillasse. Ok, tu lui dis allez, t'as tant d'enveloppes, d'accord. On revient sur la première fois, comment je l'ai formulé la première fois. T'as tant de millions d'euros pour le recrutement. Et tu vas le faire toi, le recrutement, sans directeur sportif. Et je suis mis devant le fait accompli quand tu fais une transaction dans le sens départ ou arrivée. Mais
François, ça se passe pas comme ça.
Je sais que ça se passe pas comme ça.
Il y a quand même un dialogue. Je veux dire, effectivement, moi, je suis, comme tu dis, tu me proclamais président. Je vais t'appeler François. Je vais dire François, il y a un joueur. Quel joueur tu veux? Voilà, il y en a cinq. Bon, sur ces cinq, on peut qu'en avoir deux par rapport au budget. Et après, c'est à toi de voir. Il faut qu'on puisse s'arranger aussi. Je veux dire, mais. Ça veut pas dire que c'est moi qui ai les points de pouvoir. Moi, je te laisse les points de pouvoir en te disant simplement, sur les cinq joueurs que tu me proposes, on peut en comprendre deux ou trois. Et voilà. Et essaye de faire avec. Voilà. Moi, je pense que les pouvoirs doivent quand même rester à l'homme de terrain. Sinon, le président, il n'a qu'à faire coach. Et voilà. Et comme ça, au moins.
Il y a plusieurs cas, notamment en Ligue 1. On sait que Valdemarquita est très présent sur le sportif. Parfois, il intervient.
Très impactant.
Il y a eu d'ailleurs des problèmes avec certains entraîneurs qui n'ont pas souhaité rester puisque justement
le président choisissait
parfois des joueurs.
Bien sûr.
Donc à partir du moment où tu as un président qui choisit les joueurs, ça peut poser aussi un problème avec ton entraîneur.
Entièrement d'accord avec vous.
Je pense que c'est
quelque chose qui doit se partager soit en binôme.
Il y a le directeur sportif qui est là.
Président de Dijon. Et s'il y a un directeur sportif qui doit se partager à trois pour essayer d'avoir le maximum de neutralité, je dirais, par rapport à certains intérêts qu'il peut y avoir, des intérêts particuliers au niveau financier, le maximum de neutralité. Et cette neutralité, je crois, peut-être un peu naïvement, mais je crois qu'elle servira toujours l'intérêt du club.
Alors après, tu as raison, par rapport aux intermédiaires, faut pas qu'ils soient trop intrusifs, quoi, parce que souvent les managers, ils essayent de forcer des fois, et surtout s'ils ont un lien assez étroit avec le coach ou le directeur sportif, ils essayent absolument à placer leurs joueurs alors que le club n'a pas forcément besoin de ces joueurs-là.
J'ai un exemple hors foot, en rugby, Mourad Boudjella, le président de Toulon, très bien connu évidemment, lui il avait deux choix, en gros, deux choix du président. Deux choix qu'il voulait de joueurs. Il avait pris Wilkinson, par exemple, sous l'air Saint-André. Voilà, il pouvait choisir deux joueurs au mercato.
Enfin, il s'octroyait le droit de choisir deux joueurs.
Et ensuite, il laissait le reste à son équipe technique et à son staff.
J'ai rien à dire par rapport à ça. Je trouve que c'est ubuesque. Moi, si la question, elle est, est-ce qu'on laisse, en fait, pour la reformuler, les amis, si la question, c'est, est-ce qu'on laisse une personne, que ce soit le coach, le président ou un directeur sportif, décider du recrutement, c'est non. C'est non. Que le gars décide, parce qu'il est président, ok, c'est lui qui fait le chèque à la fin du mois, mais je recrute en vertu de quelle qualité, de quel...
Attention,
Avoir du flair, c'est l'entraîneur qui bâtit son équipe.
Bien sûr. Non mais François, que le président effectivement soit un meilleur gestionnaire que le coach, et puis ça, il n'y a pas de problème.
Puis le président, il ne vire jamais, hein.
Non mais certainement.
C'est emmerdant, ils se virent pas. Hein.
D'accord. Et en plus, il y a des présidents qui ont peut-être pas la connaissance du football, du joueur. Peut-être ça vient, peut-être ça peut venir par la suite.
Ils sont pas dans le vestiaire. Ils sont pas tout le temps dans le vestiaire et aux entraînements avec l'entraîneur qui bâtit aussi la mentalité,
la cohésion,
groupe,
la cohésion du groupe, bien sûr.
C'est exactement ce que nous dit sur le hashtag RMC Live Ney's Best. Je pense qu'il serait plus raisonnable de ne pas donner les pleins pouvoirs à l'entraîneur, mais de le consulter évidemment avant de prendre un joueur. C'est quand même lui qui sait si un joueur est compatible avec sa philosophie de jeu. Et puisqu'on parle de philosophie de jeu, on va parler de Marcelo Bielsa tout de suite à 22h16 sur RMC dans l'after avec Vincent qui nous rejoint à 32h16. Salut Vincent.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Vincent.
Tu es supporter lillois et tu vas apporter quelque chose en plus parce que c'est vrai messieurs, vous n'avez pas parlé du cas Marcelo Bielsa et c'est pourtant un cas assez intéressant Vincent. Il avait eu quasiment les pleins pouvoirs à Lille et on sait comment ça s'est terminé.
C'est pour faire un peu une synthèse de tout ce que vous avez pu dire, en gros c'est vrai que le coach doit être capable de tirer le meilleur de l'équipe, mais il doit aussi passer une commande sur les besoins prioritaires pour que l'équipe s'améliore dans la mesure du réalisable financièrement. Il faut savoir qu'à Lille, il y a un président qui est arrivé, et c'est un président qui connaît absolument rien au foot. On est d'accord que Gérard Lopez connaît rien au foot. Je pense que dans le monde du foot, il y a trois personnes qui ont comme idole Marcelo Bielsa, c'est Daniel Riolo, Jonathan McCarthy et Gérard Lopez. Et ben c'est tombé sur nous, donc il a assoupli son fantasme personnel en recrutant Marcelo Bielsa, en tenant absolument pas compte de tout l'environnement autour du coach, parce que je pense que pour qu'il y ait une efficacité au niveau des résultats, il faut qu'il y ait quand même une idéologie stratégique qui soit définie entre tous les strates du club, et là c'était absolument pas le cas. Marcelo Bielsa et Campos, on savait dès le départ que c'était tout à fait incompatible. Alors Lopez a voulu en faire qu'à sa tête et les associer avec le résultat qu'on connaît. Et en laissant les pleins pouvoirs à Bielsa, ben on a eu le droit à quelques facilities venues d'ailleurs.
Je vais même aller plus loin parce que l'échec du LOSC la saison passée, on ne doit pas, à mon sens, le mettre essentiellement sur le dos de l'Argentin, de Marcelo Bielsa.
C'est d'accord,
avant
y a
tout, je parle de tête pensante. Quand tu prends ça de manière pyramidale, mais au sommet de la pyramide, t'as pas l'entraîneur. C'est normal, tu as le président. C'est les défauts en termes de management, en termes de gestion des hommes de Lopez qui ont eu une répercussion en faisant le mauvais casting, non pas de Marcelo Bielsa forcément, même si c'est pas ma tasse de thé, mais de laisser ses pleins pouvoirs à cet homme-là.
Oui, mais en même temps, quand tu veux,
et il aurait laissé les pleins pouvoirs peut-être à un autre entraîneur, il aurait eu la même catastrophe.
François et Vincent, quand tu veux un entraîneur comme Marcelo Bielsa, forcément, tu lui dis, tu viens d'accord, et t'as les pleins pouvoirs.
Ben
sinon,
on va
il ne vient
Leeds.
Jamais.
On va voir avec Leeds cette saison.
Non, mais
moi, je pense qu'avec Leeds,
en plus,
ça risque de refaire une LOSC, hein.
Moi, je crois que Lopez, tout à l'heure, tu disais Lopez. Qu'est-ce qu'il a fait, Lopez?
Gérard Lopez.
L'auditeur vient de nous dire qu'effectivement Lopez ne comprend rien au ballon. Bon, et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a laissé les pouvoirs justement au directeur sportif et à Marcelo Bielsa. Il a vu justement faire confiance en se disant que je vais rester un peu de loin, voir un peu comment ça se passe. Et ça peut-être été ça son erreur. Maintenant,
tu fais confiance, mais pas faire confiance en laissant flotter les rubans. Dans de telles proportions.
Tu parlais de gardien de foot tout à l'heure, mais au moins
il peut être un bon gestionnaire.
Tu parlais de gardien de foot, il en avait laissé quand même, puisqu'il avait laissé le directeur sportif et Bielsa s'occupait un peu du sportif et de la partie économique.
Et il a découvert que le directeur sportif, en fait, il a été écarté, enfin il servait pas grand chose par rapport à la mainmise qu'a eu Bielsa sur le club.
Mais Vincent, tu voulais rajouter quelque chose?
À un moment, il y a tellement eu d'incohérences qu'à un moment, il fallait intervenir, quoi, parce que au niveau du recrutement, on peut parler de l'âge des joueurs, c'est avec l'inexpérience. On peut parler d'un vestiaire multinational, d'un manque de règles de vie, une composition avec un système en 3-3-3-1 qui est totalement révolu et anodin.
Mais Vincent, c'est vrai, mais quand même, il fallait quelqu'un
qui tape du poing sur la table en disant il faut arrêter, ok, il fallait quelqu'un qui raisonne aussi Gérard Lopez en disant que Marcelo Bielsa, ben voilà, c'était quelqu'un, je pense qu'il est fini, has-been, et que ses idéologies, elles peuvent être dangereuses pour un club. Alors, on est bien d'accord que Bielsa n'est pas responsable de tous les maux du LOSC. Il y a mille et une raisons que je pourrais vous passer des heures à évoquer pourquoi le LOSC ne fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, il a contribué avec des facéties comme la construction de Bagalo, de sa maison en plein centre du centre de formation, des citations partout au domaine de Luchin. Mais plus que ça, c'est sur la gestion d'un groupe. Alors que il y en a qui soient fans du théoricien Marcelo Bielsa, d'accord, d'accord pour aller à une de ses conférences, mais pas lui donner les clés d'un club, parce que au niveau gestion d'effectifs, c'est médiocre et c'est pitoyable.
Je suis pas loin d'être d'accord avec Vincent.
Oui, en même temps, quand on a quelqu'un comme Bielsa, on imagine que c'est sur du long terme, qu'il a une vision à long terme sur le club.
Pas pour un club comme le LOSC qui a été à deux doigts de la relégation.
Il aime travailler avec des jeunes, il aime effectivement, là, sauf que le LOSC avait besoin de travailler dans le
monde. Il a une philosophie de foot, Bielsa. Ça, c'est magnifique à voir. Je pense que c'est formidable quand certains joueurs l'ont eu.
Si François ne donne pas les pleins pouvoirs à Bielsa, encore une fois, il ne vient pas dans le club.
Pour gagner, c'est autre chose.
Merci beaucoup, Vincent, d'être passé par RMC dans l'after. Merci.
Merci,
et bon courage pour le LOSC.
Moi, je pense que ça n'a pas marché avec Lille, mais je crois que l'homme, le coach, il faut pas le remettre en cause. Je crois qu'il a quand même prouvé que ça pourrait être un très, très bon entraîneur.
Bon, le débat n'était pas sur Bielsa, mais effectivement sur ses entraîneurs à qui on donne ou pas le pouvoir.
Tacticien, mais j'y ai aucun doute là-dessus.
Non, mais je pense que c'est un bon meneur d'hommes aussi.
Non, ça, j'y crois pas une seule seconde, ça. Je pense que il arrive à faire effet sur une saison, comme avec l'Athletic Bilbao. Non,
mais tu sais qu'il y a des entraîneurs, même sur une saison, ils y arrivent pas, hein. Donc, c'est déjà pas mal.
Il a ramené le public au stade Vélodrome, mais c'est déjà pas mal.
Vrai, on a parlé de Bielsa, mais.
C'est parce que ça a vachement bien joué, mais on peut pas comparer les effectifs. Non, oui, mais attendez. Ils avaient la qualité. Enfin, ça reste quand même les joueurs qui jouent. Merde. Mais moi, je veux bien qu'on fasse des entraîneurs, des mecs qui sont des experts de savants du tableau noir. Mais là, alors, je vais te dire, j'ai parlé des escroqueries des tournées asiatiques. Il y a une énorme escroquerie au niveau des entraîneurs. S'il y a bien un sport dans lequel tu peux avoir des illusionnistes et des charlatans, c'est bien le foot.
Non, mais. Dire que Bielsa est un charlatan, là,
je dis
loin.
Pas que c'est un charlatan. Je dis qu'il y a une différence entre faire du tableau noir et faire des conférences. Et après, dans le management des hommes, quand tu as des joueurs de qualité, c'est quand même beaucoup plus facile de gagner les matchs.
Non, mais
c'est
ça moins peut difficile. Mais, c'est moins François, difficile. François, je peux pas te laisser dire que le travail des entraîneurs, tu peux pas minimiser leur travail. Non, t'es en train de le minimiser. Je pense que, attends, faire cohabiter pendant toute une saison ou plusieurs années des stars ou des joueurs de CFA ou de DH, je peux te dire que c'est un travail. C'est très long. Donc minimiser le travail des coachs, c'est très 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 compliqué.
22h23 sur RMC, on est dans l'after et sur le hashtag RMC Live, c'est Marès qui nous dit attention, si c'est un coach qui choisit, le jour où il est viré, il y a de fortes chances que le nouveau coach ramène à nouveau ses joueurs. Donc je pense que la meilleure solution serait une direction forte qui établisse des profils validés avec le coach. C'est un petit peu ce qu'on dit. Au 32-16, Bouba nous a rejoint. Salut Bouba.
Oui, bonjour.
Supporter d'Arsenal. Donc ouais, Arsenal, le fonctionnement, c'est un manager assez fort.
Avec un board.
Avec
Arsène
un board
Wenger
très fort aussi. Et un board très très fort. Qu'est-ce que tu penses toi est-ce qu'il faut donner les pleins pouvoirs aux entraîneurs?
Bon, en fait, moi je dirais que ça dépend, il y a deux types d'entraîneurs. On a tout d'abord le style Guardiola, Wenger, qui eux ont fait leurs preuves, donc on peut leur donner les pleins pouvoirs. Et ensuite, on a les autres catégories d'entraîneurs, donc type les entraîneurs de Ligue 1. Moi, j'ai une comparaison à faire par rapport au monde de l'entreprise. Par exemple, lorsqu'on a un manager qui recherche un employé, donc il veut telle compétence, il sait ce qu'il veut, donc il va voir son responsable de ressources humaines, donc il va dire « moi, je veux tel employé avec telle compétence ». Ensuite, on lui propose un panel d'employés et c'est au manager de choisir. Pareil pour le foot. Lorsqu'on a un entraîneur, c'est-à-dire qu'on vit plus d'un an avec les joueurs, donc on les voit s'entraîner, on sait ce qu'on veut, on a notre plan tactique. Et du coup, on va voir le responsable de recrutement. On dit, voilà, moi je cherche un milieu de terrain, technique, gaucher, petit de taille. Et du coup... le responsable de recrutement va lui chercher ce type de joueur, il va lui proposer un panel de joueurs et ça va de pair, ils sont complémentaires, c'est-à-dire que c'est l'entraîneur qui va se dire moi ce joueur-là j'aime bien et avec l'accord du responsable de recrutement et du président, eh ben ils peuvent le recruter. Donc pour moi c'est plus complémentaire. Lorsqu'on a l'entraîneur moyen, comme a dit François, on peut pas lui donner les pleins pouvoirs, surtout si le président met son argent. Donc voilà, je parlerais plus de complémentarité qu'autre chose.
Voilà.
Non, mais bien sûr, mais c'est ce qu'on disait. De toute façon, les deux vont de pair.
Il faut que,
bien sûr, évidemment, mais le dernier mot doit forcément revenir à l'entraîneur dans le choix, si le budget le permet. Mais sinon, on est complètement d'accord avec toi, Bouba.
Il faut pas donner les pleins pouvoirs à un entraîneur.
Mais je dis pas qu'il
mais
faut
si,
donner.
Il faut si, le dernier mot. Oui, en revanche, sur le recrutement, si le budget le permet, cette phrase, elle est vachement importante. Je pense ça. Si le budget le permet, oui, d'accord, le mec tranche.
Voilà, c'est sinon je
avec le directeur sportif et le président.
En tout cas, il faut pas comme toi tu le disais à un moment, que ça soit l'entraîneur qui fasse le président qui fasse le recrutement parce que c'est mauvais.
C'est ça.
T'étais pas
plus J'ai pas dit ça. Si tu lis dans mes pensées là, tu vas avoir des surprises, avoir des bonnes têtes.
Bon, Bouba, merci beaucoup. Surtout, tu voulais rajouter quelque chose, vas-y.
Une dernière chose, par exemple, je pense que vous en avez déjà parlé. Le recrutement de Marcelo Bielsa, par exemple. Sincèrement, je pense qu'on lui a donné les pleins pouvoirs.
Ouais.
Et c'est lui qui a voulu recruter les joueurs. Et je suis persuadé que la moitié des personnes qui travaillent avec lui ne connaissaient pas vraiment les joueurs. Donc là, on a donné vraiment les pleins pouvoirs. Donc Marcelo Bielsa a recruté des joueurs qu'on ne connaissait pas.
Mais il n'y a pas seulement ça, Bouba. C'est pas le fait simplement de recruter tous les joueurs. C'est d'écarter les joueurs aussi, comme les Nyama, les Mavuba, qui représentaient un petit peu le club. Et en plus, tu vois la réussite.
On a vu les Nyama et les Mavuba.
Non, mais tu vois, attends, mais on a vu la réussite de Sliti. On a vu la réussite de Terrier.
Et Nyama est blessé.
Tu les avais dans le club.
On revient pas sur Bielsa.
Il faut que tu respectes aussi une histoire.
Ça divise, on sera pas d'accord sur Marcelo Bielsa.
Bah, si ça divise,
moi je crois que c'est un bon tacticien.
Ouais, moi aussi.
Je parle pas français.
Merci Bouba d'être passé dans l'after.
Tous les deux,
on revient tout de suite dans l'after.
J'ai pas dit que c'était pas un bon tacticien.
François, on se tait puisque je fais mon teasing. Mercato Show dans un instant avec Sarah Griffon qui va nous donner les nouvelles de Saint-Etienne. Restez avec nous. Et puis le quiz avec un jeu à gagner. On vous fait gagner un jeu. Appelez-nous au 3216. À tout de suite dans l'after.
Submétéo. RMC, l'after jusqu'à 23h, François Pinet.
Allez, on entend reprendre ensemble pendant une demi-heure jusqu'à 23h sur RMC dans l'after. Je vous rappelle qu'il y a un quiz tout à l'heure, le quiz de l'after, et à gagner un jeu Perrudo. Et puis on vous fait gagner depuis le début de la semaine dans l'after un Subuteo. C'est un jeu où il faut jouer avec ses doigts. Comme ça. Voilà, c'est François Manardo qui va nous présenter sur BFM Sport. C'est l'édition de la finale France-Brésil 98. Vous le faites très bien.
Vas-y, parle-nous.
Pour remporter la mythique boîte Subuteo, envoyez after au 732-16. After au 732-16, il y aura un tirage au sort en fin de semaine. Voilà, le Subuteo a gagné. Le Mercato Show, c'est parti, c'est maintenant, avec pas mal d'infos à vous donner. Oui, il faut ouvrir un bouton pour me rendre le Subuteo. Et c'est Sarah Griffon qui fait sa première dans l'after.
Tout à fait, salut à tous.
Salut. Ça fait quoi d'être dans l'after pour la première fois?
C'est impressionnant.
Ouais, c'est ça.
Ça va, tu tombes bien, t'es avec François Bernardo et Samuel Lipois. C'est eux qui vont être impressionnés par toi.
Et François Pinet.
Allez, l'heure du Mercato Show et l'heure du choix pour Adrien Rabiot. Selon le quotidien catalan Sport, le Barça ne laisserait plus que quelques jours aux joueurs du Paris Saint-Germain pour faire son choix, alors que justement le PSG et son entraîneur Thomas Tuchel lui met un petit peu la pression.
Exactement, il faut remonter à 2 semaines. Adrien Rabiot laisse entendre qu'il n'était pas contre un départ de son club, du Paris Saint-Germain, alors qu'il est en contrat encore un an avec le PSG. Sauf que depuis, le technicien allemand Thomas Tuchel, l'entraîneur, a fait d'Adrien Rabiot son capitaine durant le début de cette préparation. Il lui a fait savoir qu'il comptait sur lui. Et de l'autre côté, eh bien, le Barça aurait tout mis en œuvre pour débaucher le Parisien. Il lui aurait d'ailleurs fait savoir qu'il étudiait d'autres pistes et qu'il s'y attaquerait dès la semaine prochaine si Rabiot ne donnait pas de réponse favorable. Alors, pour y voir plus clair, pour clore le débat, une réunion entre le Paris Saint-Germain et le clan Rabiot sera organisée dès jeudi.
Donc jeudi, normalement, on aura
une réponse.
Voilà, avec Madame Rabiot.
Oui. Non, je pense que la différence, je pense que si Emery serait resté, il serait déjà parti. Mais là, ça change un peu. On voit que Tourelle le bichonne, le caresse un peu dans le sens du plan. Il lui a mis le brassard. Il sent qu'il a un peu d'importance. Je crois que le fait aussi que Tuchel va un peu dans son sens, je pense que ça lui fait un peu réfléchir, malgré le luxe qu'il a de faire le choix entre Barça et rester au PSG. Je pense que
après, il y a une situation par rapport à Rabiot qui est un peu particulière, hein, avec la France championne du monde et lui son choix là pour le coup, qui était très très clair, de s'écarter de l'équipe de France. Faut voir un peu comment il sera attendu. On en a déjà parlé. Parc des Princes, a priori, pas de souci. Les 19.
Non, le parc l'aime bien, Rabiot.
Ça peut être compliqué. On verra. Ouais. Nous verrons.
Non, mais c'est un joueur qui est quand même apprécié en France. Hein. C'est pas parce qu'il a fait ça, si, mais il a apprécié. Mais attends, c'est un bon joueur. C'est un garçon qui est quand même. C'est un très très bon joueur.
Le tribunal populaire, il juge pas que sur la qualité du joueur. Il juge aussi la réaction humaine. Tu refuses d'être réserviste pour l'équipe de France parce que t'estimes que t'as ta place au milieu des titulaires.
Mais François, t'as droit d'avoir du caractère aussi. T'as droit d'avoir du caractère.
Non, mais t'as des fois avant d'ouvrir ta langue.
Certainement, mais il a injurié personne. Il a tout simplement dit que lui, être sur le banc, ça le plairait pas. Voilà, je veux dire, ça lui plaît pas. Voilà. Je pense qu'avoir du caractère, c'est aussi bien. C'est ce qui fait les grands joueurs et les grands hommes.
Sarah, toujours pas de transfert d'ailleurs du côté du PSG puisqu'on en parle, à part Buffon hein, bien sûr. L'année dernière, les supporters avaient été pourtant gâtés avec Neymar et Mbappé. Bon, ils vont peut-être pas dépenser autant tous les ans. Cette année, on s'attendait à N'Golo Kanté. Où est-ce qu'on en est avec le champion du monde?
Eh ben, ça risque de ne pas se faire parce que N'Golo Kanté, la star du mondial de cette équipe de France, tout d'abord n'a pas émis le souhait de partir de son club, de partir de Chelsea, et puis parce qu'on n'est jamais trop prudent, le club londonien a augmenté le salaire du champion du monde, 325 000 euros par semaine. C'est une somme, on va dire. Ça ferait plaisir à pas mal de monde. N'Golo Kanté, qu'on connaît très discret, deviendrait la star de ce club, le plus gros salaire chez les Blues. Et voler la vedette d'Eden Hazard également. Dernière petite info, le joueur arrivé de Leicester en 2016 avait signé un contrat de 5 ans avec Chelsea. Alors avec cette somme, est-ce qu'on part? C'est pas sûr.
En tout cas, Paris Saint-Germain, ils ont quelques sous à mettre sur la table.
On a Quentin au 32-16, supporter de Chelsea, qui est avec nous dans l'after. Salut Quentin.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Quentin.
Alors, N'Golo Kanté à Chelsea, on imagine que toi t'es plutôt satisfait de ces infos apportées par Sarah Griffon.
Alors, satisfait et pas surpris. Honnêtement, je pensais, j'étais quasiment sûr qu'il allait rester de mon côté, malgré des rumeurs qui l'évoquaient du côté du PSG. Honnêtement, côté de Chelsea, s'il y avait des bonnes sorties qui étaient accordées cette année, c'était plutôt du côté des Belges, Hazard, Courtois ou voire peut-être Willian le Brésilien. Mais côté N'Golo Kanté, j'imaginais pas la direction des Blues le laisser partir cette saison. Enfin, pour la saison prochaine, on va dire.
Ouais. Et Willian n'était pas à l'entraînement d'ailleurs, hein. Petite info aujourd'hui. Il a prétexté un problème d'avion, je crois. N'Golo Kanté, ça aurait été bien effectivement pour la Ligue 1 et pour le Paris Saint-Germain. Désolé Quentin, mais ça aurait été pas mal pour la Ligue 1.
Oui, mais je la regarde pas, je regarde que la première
division. Ah, t'as raison, hein, c'est sur RMC Sport, donc voilà. On continue. Une petite info d'ailleurs sur Chelsea, je sais pas si tu sais Quentin, mais John Terry, ancien joueur de Chelsea, était à l'entraînement de l'OM aujourd'hui. Alors pas pour s'entraîner, mais il est allé voir l'entraînement de l'Olympique de Marseille qui s'entraîne actuellement au Portugal. Je sais pas si ça va donner une idée à Garcia.
Il est certainement en vacances dans le coin.
Peut-être. Mais en tout cas, il est allé voir l'entraînement de l'Olympique de Marseille.
D'ailleurs, il y a Giresse aussi qui est allé les voir, parce que Giresse, Alain Giresse, il était en vacances dans le coin, donc
ils sont tous au
Portugal. Et...
D'accord. C'est The Place. Non, merci beaucoup, Quentin.
Pour Kanté, je crois qu'il le mérite amplement. Et en plus, ce que j'aime bien sur ces joueurs-là, c'est-à-dire qu'ils montrent des valeurs que certains joueurs devraient quand même prendre exemple, c'est-à-dire qu'il faut d'abord transpirer. Et quand tu transpires, t'as pas besoin d'aller te toquer au bureau du président, il t'appelle lui-même et il t'augmente tout seul.
Et il a pas du caractère, N'Golo Kanté, d'après toi?
Ah si, il en a énormément.
Ouais, mais on l'entend moins parler.
Oui, non, mais après.
Sauf qu'il y avait quand même une donnée un peu particulière, c'est que Chelsea jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Et Kanté, il aurait pu jouer la Ligue des Champions avec le PSG. Ou avec Barcelone, qui était peut-être aussi sur les rangs.
Non, mais je pense que la non-venue de Kanté aussi, on voit bien depuis la Coupe du Monde, on l'a encore davantage découvert, c'est un garçon très discret. Je crois que le fait de venir à Paris aurait un peu chamboulé la vie tranquille qu'il a un peu du côté de Londres. Donc il a peut-être privilégié cette vie-là un peu tranquille, pas de loin des sunlight et voilà quoi.
Alors pour les supporters du PSG qui nous écoutent dans l'after, peut-être une recrue, ce sera pas N'Golo Kanté, mais ça avance pour Jérôme Boateng, l'Allemand.
Exactement, c'est pas officiel, mais ça chauffe entre le PSG et Jérôme Boateng, qui aurait trouvé un accord sur le montant du transfert. Le Bayern Munich réclamait 50 millions d'euros, une somme qu'Antero Henrique tentait de négocier à la baisse. Sur le terrain, Jérôme Boateng pourrait dépanner comme arrière-gauche ou arrière-droit pour seconder Lévin Kurzawa ou Thomas Meunier. Jérôme Boateng qui est en contrat jusqu'en 2021. Tout de même,
et puis pourrait jouer aussi, surtout dans cette défense à 3. Il peut jouer aussi dans l'axe. Enfin, c'est quand même quelqu'un d'intéressant.
Non, pas du tout. Non, mais moi, franchement, si ça devait se faire, je serais franchement déçu. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. C'est un garçon maintenant, effectivement, qui
déçu.
A eu. Mais attends, il joue que sur une jambe maintenant.
Oui, Boateng. Monsieur, déçu.
Attends, je suis champion du monde en 2014.
Mais alors,
attends, fais pas l'aumône des joueurs du monde 2010-2014.
Mais attendez,
t'as le droit de devenir. Un peu moins fort, Bayern Munich, les joueurs déclinent à un moment donné.
Qu'ils soient souvent blessés, on est d'accord, mais Jérôme Boateng, au PSG, c'est pas mal.
Attends, sur la saison du Bayern, non. Ça fait... Non, François. Sur la saison du Bayern, il n'est pas flamboyant.
Non, mais ça fait 4 ans qu'il n'est pas flamboyant.
Avec depuis, la Mannschaft. Depuis...
Mais oui, attends, ouais. il a la ramasse, le gars.
Avec la Mannschaft, il avait un tank accroché au short.
Bien sûr, attends.
Si, je l'ai vu.
Et attends, il est sur IBFM.
Non, mais
bien sûr, l'immeuble de RMC se retourne plus vite que lui. Non, mais le mec, il est vraiment. Il est vraiment à la ramasse, le gars. Depuis, ça fait 4 ans. Je peux te dire, en 4 ans, tu peux. Je crois que ça se compte sur les doigts d'une main. Les bons matchs qu'il nous a sortis, hein, Boateng. Hein.
Voilà, t'es peut-être un peu sévère.
Ouais. Moi, je trouve ça sévère. Ouais,
t'es peut-être quand même, un peu sévère. En 4 ans, match. Je sais pas si t'as vu tous les matchs de la Ligue allemande, de la Coupe d'Allemagne.
Il m'arrive de regarder la Bundesliga. Je peux te dire que il est vraiment pas fameux. En plus, cas, à 50 millions, en 50 millions, le gars. Ah, ben là,
oui. Ce sera à négocier du coup à la baisse.
Oui, mais t'as un prix pour Paris Saint-Germain et pour les autres.
Bon, puisqu'on parle de la Bundesliga, il y en a un qui s'éclate là-bas et qui a la cote. C'est Benjamin Pavard, le Bayern Munich. Qui ne verra pas, a priori, Benjamin Pavard cette saison, puisqu'il devrait rester à Stuttgart, selon son directeur sportif.
Tout à fait, il devrait rester à Stuttgart un an, et pourquoi pas partir du côté du Bayern Munich l'année prochaine, l'été prochain. C'est en tout cas ce que les médias allemands disent, font déjà état d'un transfert pour la saison 2019-2020. Le Français resterait donc à Stuttgart cette année, partirait du côté du Bayern l'été prochain pour un transfert de 35 millions d'euros, à moins que le Français... nous mettre encore quelques belles pépites comme mondial.
Ouais.
Bah, c'est le bon prix.
Moi, il est champion du monde. Il a pas fait un mondial dégueulasse. Il a pas fait non plus un mondial flamboyant. Ouais. Tout le monde n'a parlé, et pour cause, que de son titre, de son but, pardon, et de son titre, évidemment. J'attends de voir le joueur du VfB confirmer la saison prochaine dans Bundesliga. Il va pas jouer de Coupe d'Europe. Il me semble pas que Stuttgart ait accroché une place en Europa League.
Non.
Voilà. Et de voir comment il peut s'installer avec un Sidibé qui va vraiment revenir normalement à son niveau dans cette concurrence en équipe de France, parce que c'est pas parce que t'es champion du monde que tu as un passe droit.
Et tu vois le jeu de chaise musicale Boateng au PSG, Pavard qui joue dans l'axe avec Stuttgart, qui peut jouer dans l'axe aussi au Bayern. Mmh. Voilà.
On verra.
Un autre joueur du Bayern d'ailleurs fait l'actualité mercato aujourd'hui, Sarah, c'est Lewandowski.
Exactement, Robert Lewandowski qui a déclaré qu'il resterait au club allemand avec qui il évolue depuis 2014, alors qu'il a toujours dit qu'il rêvait de jouer avec le Real Madrid, le Real qui recherche toujours son attaquant. Ah oui. On a beaucoup entendu le nom d'Eden Hazard. Messieurs, vous prendriez qui, vous, comme attaquant pour le Real Madrid?
C'est une bonne question.
Ah, moi je garde Benzema. Je garde Benzema, ils en ont un, les attaquants.
Non, mais est-ce que Benzema n'a pas perdu cet amour, cet instinct de killer qui était le sien quand il a commencé? Parce que à force de devoir toujours servir Cristiano Ronaldo, est-ce que finalement tu perds pas cet instinct de buteur que tu as?
Justement, il jouera plus pour le but puisque Cristiano Ronaldo est parti.
Peut-être, mais moi je pense que c'est pas une mauvaise affaire, hein, si éventuellement Lewandowski devait venir au Real. C'est un joueur qui serait, je pense que ce qui pourrait bien se marier avec la Maison Blanche.
Oui, mais on vient de te dire qu'il ne viendra pas au Real Madrid. Et qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. C'est Sarah, t'as pas écouté Sarah.
Ah oui, non, il a dit que justement il resterait.
Lui avait envie de partir, hein. C'est Kovac, qui veut vraiment le faire rester. Lui, il a vraiment envie de partir. S'il pouvait partir dès ce soir, il partirait au Real.
Il y a Harry Kane aussi. Vous avez pas cité Harry Kane.
J'allais le faire. Eh bien, monsieur Pinet.
Je lis.
Vous
un
lisez,
peu dans,
mais tous les deux, vous lisez un peu trop dans mes pensées.
C'est effrayant d'ailleurs ce qui se passe dans les pensées.
Exactement. Et je pensais à Harry Kane. Je pensais à Harry Kane, mais le Harry Kane de cette Coupe du Monde, meilleur buteur certes, mais surtout au premier tour, dans un groupe où à part la Belgique... Ouais,
François, tu vas pas juger Kane sur deux matchs sur la Coupe du Monde, il faut regarder sa saison.
Avec la Première Ligue, il est extraordinaire, voilà. Il a été bon en Champions la saison passée avec Tottenham, mais pour moi il a sa place au Real Madrid.
Allez, direction l'Italie, Sarah, maintenant, avec Higuain qui pourrait aller à l'AC Milan, en tout cas ça se précise.
Ce serait son troisième club italien après Naples et la Juve. Selon la presse transalpine, l'attaquant argentin a donné son accord pour débarquer à l'AC Milan, pas de retrouvailles donc avec Cristiano Ronaldo, là on est déçu quand même. Il s'agirait d'un prêt payant estimé entre 18 et 20 millions d'euros. Cette opération devrait permettre une autre transaction, un échange entre deux défenseurs, Leonardo Bonucci et Mattia Caldara.
Un prêt payant. D'accord, c'est un transfert.
Prêt payant.
Je trouve que c'est un joueur qui a
prêté comme Mbappé au PSG, peut-être une première saison et puis ensuite c'est un prêt où il verserait une somme par rapport au salaire,
un acompte,
un prêt payant,
un acompte.
C'est un prépayant.
Je trouve que c'est un joueur qui a très peu de reconnaissance, parce que c'est un joueur auquel tu te trompes pas, quoi. Il marque toujours ses 20, 25 buts dans la saison. Et finalement, les clubs ne le gardent très, très rarement, quoi.
C'est bizarre.
Vous lisez dans mes pensées, mais moi, j'écoute ce que vous dites. Je vais vous faire la même remarque que vous m'avez faite par rapport à Buffon. Mais peut-être que la Juve a compris que c'était le moment.
Oui, mais alors le Real aussi, il s'en sépare à un moment, tu vois. Il a rendu des services à chaque fois.
Je pense
s'en sépare. C'est pas parce que...
Il y avait un gros turnover avec Benzema. À un moment donné, Higuain, il voulait une vraie place.
Oui, mais à la Juve, il était titulaire. Il aura quand même rendu pas mal de services. Moi, je trouve ça assez surprenant qu'il le vende à un concurrent en Serie A.
Oui, après, bon, il y a une place.
D'autres raisons.
Après, il y a une place pour deux. Je veux dire, le choix est fait, hein, entre Cristiano Ronaldo et Gonzalo Higuain. Même si, franchement, Milan.
Faire jouer les deux.
C'est compliqué parce que bon, les deux ne défendent pas beaucoup. Hein.
Si on va passer à la Ligue 1, le mercato de la Ligue 1, puisqu'à Saint-Etienne, je vous en parle depuis le début de l'after, après le coup de gueule de Jean-Louis Gasset à ses dirigeants, qui a critiqué le manque de recrues, eh bien le mercato des Verts s'accélère, Sarah.
Selon les informations RMC Sport, le club stéphanois a fait de Rémi Cabella une de ses priorités. Il existe entre le joueur et la SSE une volonté commune de continuer ensemble. Lui qui était prêté par l'Olympique de Marseille. Le seul problème, comme souvent quand on parle de transfert, eh bien c'est le prix, parce que l'Olympique de Marseille justement réclamerait entre 10 et 12 millions d'euros pour libérer le Français. Et c'est une trop grosse somme, parce que la SSE a recruté Cazeri et a prolongé Mathieu Debuchy et Yann Mvila déjà.
Et puis d'autant plus que Saint-Etienne tient une recrue de plus, on peut le dire ce soir.
Timothée Kolodziejczak sera stéphanois la saison prochaine. C'est ce qu'a annoncé Frédéric Paquet, le directeur sportif de l'ASSE, qu'on a contacté un peu plus tôt. Le joueur devrait s'engager dès demain. On ne connaît pas encore la durée de son contrat avec Saint-Etienne. Il retrouvera donc la Ligue 1 après des passages difficiles à Séville. Au Borussia Mönchengladbach, il s'était relancé aux côtés d'André-Pierre Gignac chez les Tigresses du côté du Mexique.
Non, mais à Séville, il avait été bon. À Séville, il avait été pas mal.
Sans Paoli, le sort. Mais il est titulaire. Il me semble, la troisième finale successive d'Europa League de Séville. Non, mais il est bon. Après
c'est vrai qu'il était parti en Allemagne, il n'avait pas forcément beaucoup joué.
Ce qu'on me dit dans l'oreillette, c'est que c'est celui qui va s'occuper des flocages à Saint-Etienne qui...
Elle l'a très bien dit. Tu sais l'écrire, Kolodziejczak?
Impossible. Redis-le. D'autres infos en Ligue 1 très rapidement, parce que Strasbourg, on a eu hier l'entraîneur Thierry Loret qui cherchait un défenseur. Il l'a trouvé visiblement.
Oui, toujours selon nos informations, Sunderland et Strasbourg sont tombés d'accord pour le prêt de Lamine Koné, le défenseur international ivoirien de 29 ans, arrivera demain en Alsace pour passer sa visite médicale.
Et on s'arrête là, Sarah. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bravo pour la première dans l'after.
Bravo, Sarah.
Ouais, on s'arrête là. C'est fini.
C'est terminé parce qu'il y a le quiz. Tu peux encore rester quelques secondes.
Ah oui, arrête pour le quiz.
On est là jusqu'à 23h encore avec l'after. Et le quiz, François Manardo, Samuel Ipois, si vous voulez jouer avec l'un d'eux pour gagner un Perrudo, c'est le jeu favori des joueurs de l'équipe de France. François Manardo vous le présente sur BFM Sport. On est ensemble, vous nous appelez au 32-16, vous jouez et vous gagnez. À tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show, l'afterfoot, François Pinet.
Allez, dernier quart d'heure dans l'after, on est ensemble jusqu'à 23h, on vous fait gagner dans un instant un jeu, le Perrudo, le jeu favori des joueurs de l'équipe de France. Sarah Griffon qui est restée ici vous le présente magnifiquement. Tu sais jouer, Sarah?
Quand même beaucoup moins bien que moi.
Mais personne ne sait jouer autour de cette table au Perrudo, c'est quelque chose de dingue. Et le Subutéo que montre François Manardo sur BFM Sport, pour ceux qui nous écoutent, c'est moins télégénique.
Je montre bien.
Subutéo, à la radio, tu le montres très très bien. Subutéo, c'est un jeu mythique, France-Brésil. Et c'est à gagner 7-32-16.
Mon ami veut dire.
Non, j'ai un ami qui s'appelle Philippe. Le sien, il a brûlé. Il veut que tu lui offres.
Et ben, il écrit 7-32-16.
Sinon, t'as pas des amis, non, qui ont. T'as des amis avec des jeux qui brûlent souvent, toi?
Ah, c'est ce qu'il veut me dire.
C'est Philippe, c'est ça? Philippe, un SMS, after au 7-32-16.
Je l'ai perdu, je le veux.
Très rapidement, avant de passer au quiz des infos du jour. D'abord avec Nathalie Bois de la Tour, la présidente de la Ligue de football professionnel, et Didier Quillot, le directeur général, qui ont présenté le slogan de la Ligue 1, mais c'est pas pour ça que je vais en parler, le slogan vous le connaissez, la Ligue des talents. C'est
évidemment c'est un slogan pour la saison à venir, voilà, ou qui va rester
non, pour la Ligue 1 qui non, devrait
c'est,
rester
c'est pour la formation tout ça
et puis c'est pour
la formation
aussi hein. À l'étranger la Ligue 1, puisque en anglais League of Talents, ça marche très très bien. En marge de cette présentation,
donc
il
se sont pas foulés les mecs quoi.
Il va falloir voir certains matchs
c'est du copier-coller
cette
quoi.
Saison tu vas voir la Ligue des Talents
Didier Quillot a expliqué à Antoine Arlo en marge de cette présentation qu'il aimerait sans doute du changement pour les dates du mercato. Ça c'est très intéressant, écoutez Didier Quillot.
Moi, je pense que le mercato devrait s'arrêter dans toutes les grandes nations européennes à même temps. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, il devrait être, la fin du mercato devrait être avancée autant que faire se peut, qu'elle ne traîne pas trop après la première journée du championnat. On a fait une première étape cette année, c'est que toutes les grandes nations européennes finiront le 31 août leur mercato. L'année dernière, l'Espagne avait prolongé d'un jour, le 1er septembre, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Barcelone avait fait une offre sur Di Maria, souvenez-vous, après le mercato, après la clôture du mercato ici à Paris, dont on avait beaucoup parlé à l'époque.
Bon, ça paraît assez logique quand même, hein, que le mercato s'arrête avant le début d'un championnat.
Oui,
moi, je trouve ça totalement logique, on y viendra, a priori, on uniformisera tout ça en Europe.
Il va y en avoir un paquet contre, hein, enfin, agents et joueurs.
Ah oui, oui.
Mais non, mais après, il faudrait que les championnats aussi, alors pratiquement, commencent aussi en même temps, parce que t'as des championnats qui commencent, au mois de juillet, t'en as qui commencent en septembre.
Mais quel championnat tu fais commencer? Parce que, à l'échelle de l'Europe, c'est 55 pays, hein.
Ah, non, mais c'est bien.
Et les, certains, évidemment, qui,
non, mais justement, c'est...
météo, peuvent pas jouer en même temps que nous.
Ah oui, mais c'est
pendant que la Russie, pardon, ça, pendant la Coupe du Monde, le championnat russe s'est arrêté.
Oui, oui. C'est vrai.
Non, mais c'est bon. Pour cela que tu as que la période des transferts traîne un peu plus et est ouverte
mais
plus
on
tard
est
pour certains.
Qu'il y ait une homogénéité et que ce grand business-là, il ait une date de début,
le début
une date
et de fin.
Identique pour tout le monde.
Didier Quillot qui a également évoqué à Antoine Arlo plusieurs nouveautés. On aura le temps d'y revenir avant le début de la Ligue 1, mais il a évoqué la VAR, hein, l'assistance vidéo qui sera une des nouveautés marquantes de cette Ligue 1 cette saison. Et les tribunes debout. Et oui, il y aura des tribunes debout. Il y aura des tests faits notamment à Lens et à Sochaux, normalement dès ce week-end pour la Ligue 2 et peut-être également dans des clubs de Ligue 1. Donc ça sera à suivre, ça sera une grande nouveauté
mais pourquoi
aussi.
Pourquoi on les avait enlevés alors au début, là, on les avait enlevés pour prendre... Ah ben alors, ça a changé
C'est une expérience autorisée par la ministre des Sports, Laura Flessel, et donc il y aura ces initiatives-là. Ouais. Les supporters sont assez favorables, et ça marche très bien en Allemagne.
Compressé contre le grillage.
Et au rugby aussi. Au rugby, c'est ce qui se passe.
Ouais.
Ils sont debout aussi.
Oui, il y a des clubs, il y a des stades.
Sur la buvette même.
Ça, on dit pas.
Allez, une dernière info avant de passer au quiz.
Oui, oui, oui.
Sur Neymar. Neymar, vous avez tous entendu ou vu la publicité pour un de ses sponsors dans lequel il explique il fait un petit peu son mea culpa, mais il explique qu'il tombe parfois, mais qu'il n'y peut pas grand-chose. Eh bien, il a reçu le soutien après les critiques, après son mondial et justement cette publicité d'une certaine Nadine Gonçalves. Vous savez qui c'est?
Sa
maman.
Sa maman, exactement, qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour protéger son fils.
J'ai dit, il y a que sa mère qui la connaît, mais Nadine
c'est la maman de Neymar qui dit, en tant que mère, je pense que la plupart des autres parents également diront, je deviens triste quand on parle mal de mes enfants, et ce d'autant plus quand on ne les connaît pas. Les gens connaissent le nom de Neymar, mais la personne en elle-même, peu de gens la connaissent. Nous sommes des humains, nous avons des défauts, il est mon fils, je t'aime, je serai toujours à tes côtés. Elle l'appelle mon guerrier. Voilà, je suis ton...
Elle a vraiment dit ça.
Mais voyez,
Instagram.
Le message de sa mère est beaucoup plus sincère que lui.
Mais il est assez sincère et assez touchant.
Il est évidemment sincère, enfin, je pense, le message d'une mère. Maintenant,
Ah oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est beaucoup plus sincère que son message à lui sur la publicité.
Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce message, par rapport à l'image publique de son fils?
Visiblement aussi, sans doute, on n'y pense pas assez, mais les critiques qui touchent les joueurs, ça touche aussi la famille des joueurs. Beaucoup, et les joueurs sont souvent plus mécontents que ça touche leur famille. Parfois, ils s'en foutent d'être critiqués, mais en revanche, quand ça touche la famille, ça commence à devenir difficile.
Bah oui, mais dans ces cas-là, fallait faire peut-être un autre métier, quoi, ou un autre métier. C'est une star.
Mais
non, on va pas nous sortir la famille à chaque fois qu'il y a une star de ce sport qui traverse un moment compliqué dans sa carrière parce qu'il a un peu choisi lui aussi. Elle peut aussi lui dire à l'oreille.
Aucune sensibilité, François Manardeau.
Non, mais attends, on va pas me sortir les violons, je te défends, mais c'est vrai que tu gagnerais peut-être à en faire un peu moins, avec ton studio.
Tu crois que c'est téléguidé par Neymar, le message de la maman?
Non, parce que c'est la famille.
Bon, ok. Hein. Allez, on s'arrête là. Le quiz maintenant. C'est parti, le quiz de l'after. Allez. Attention, soyez bons. Alors, on a Vincent et Sébastien avec nous au 32-16. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
On va répartir les équipes. On va commencer par Vincent. Tu veux jouer avec qui?
Avec Sam.
Avec Sam. Oula.
Je te promets rien, mon pote.
Je sais pas si t'as fait le bon choix, Vincent. Sébastien, vous écoutez avec François.
Je sais pas si t'as fait le bon choix.
Ça va?
Laisse dire comme ça.
Et Sarah, elle peut participer.
Je te souhaite les réponses.
Sarah, elle est dans l'équipe de François et de Sébastien.
Attention, c'est pas Sarah qui a gagné, hein. Faut préciser, hein.
Donc vous avez un petit avantage, vous êtes trois, hein. Donc je serai intransigeant.
Pas passé...
Attention, c'est comme à question pour un champion. Profits, il faut découvrir des joueurs qui ont changé de club cet été, comme à question pour un champion. Vous pouvez le dire quand vous voulez, sauf que vous avez droit à un nom. Vous avez droit à un seul nom.
Oh là là.
Il faut par personne.
De transfert alors, transfert.
Bah, un joueur qui a changé de club cet été. Vous êtes prêts?
Ouais.
C'est parti. Je suis né le 2 janvier 1987 à Rieux-la-Pape, dans la région lyonnaise. Formé à l'Olympique lyonnais, je suis un attaquant que l'on compare souvent à Thierry Henry pour mon style de jeu. Prêté à Lens, c'est à Nice que j'explose vraiment entre 2008 et 2010. Qui a dit Leroy Camille?
Vincent,
un point pour Vincent. Vincent, t'es avec Sam. Non, pas... Donc ça fait un point pour l'équipe Sam.
Vincent, d'accord, parce qu'il est passé de son
ligne. Transféré à Marseille par la suite, j'ai fait une bonne première saison avec les buts inscrits, etc. Okay. Avant de connaître une série de blessures, j'ai enchaîné les prêts en Espagne, aux côtés de Retafé, puis de Las Palmas. Je suis international français, j'ai fait partie des 23 sélectionnés pour la Coupe du Monde 2014, et je viens tout juste de signer à Lille. Attention, j'ai 34 ans, je suis international togolais, je suis un milieu de terrain défensif, j'ai participé à la CAN 2005, Coupe du Monde 2006 et à la CAN 2013. Formé à Toulouse, perdu, je dispute plus de 350 matchs de Ligue 1 grâce à mes passages à Grenoble, Lorient, Marseille. Titulaire indiscutable sous l'ère Bielsa, je quitte l'OM en 2016 pour rejoindre le Zagreb. Qu'est-ce que t'as dit?
Ndiaye.
Non, c'est qui a parlé là, Vincent?
Non.
C'est
non,
Sébastien, c'est perdu.
Ils ont plus le droit de parler.
Si, bah, il y a Sarah qui peut encore sauver. Pour rejoindre le championnat grec, l'Olympiakos. Deux ans plus tard, je reviens cet été en Ligue 1 avec le champion de Ligue 2, le Stade de Reims. Je suis. Togolais. Olympiakos. Marseille. Bielsa.
Non, mais même nos auditeurs, là, ils sont à la rue. C'est qui l'a
Alexis
fait,
Romao.
Quiz.
Ah oui,
Alexis Romao.
Romao.
Ah, Romao. Putain, il est
format,
tu nous dis.
Alors peut-être plus facile pour lui. Pour vous, pardon. Je suis né à Berlin. J'ai 31 ans. Je joue au poste de milieu de terrain. La stabilité n'est pas mon fort puisque je viens de signer dans le 10e club de ma carrière. Formé au Hertha Berlin, j'ai également joué à Dortmund une saison et plus récemment à Schalke et à Francfort la saison dernière. Je suis également passé par l'Angleterre avec Tottenham et Portsmouth. Je viens de signer à Sassuolo, mon 2e club de Serie A après avoir joué 3 ans pour le Milan AC entre 2010 et 2013. Je suis international ghanéen. J'ai un frère qui joue pour
Boateng.
Boateng. Qui a dit Boateng?
C'est Vincent. Seb.
Je sais pas, faut que des barbiers.
Non, c'est moi.
C'est Freddy Boateng.
C'est Sébastien. C'est Sébastien qui l'a dit en premier. Dis-moi son prénom.
Kevin Prince Boateng.
Kevin, je l'ai dit, Kevin.
Non, mais c'est Sébastien qui a été le plus rapide.
Ouais.
Sébastien était le plus rapide.
Ouais. Donc, et qui a combien
donc ça fait un partout.
Qui mène?
C'est dans ton équipe, Sébastien. Partout. Un partout, attention. Il faut les partager, là. Je suis international français né à Tourcoing dans le Nord. Formé au LOSC, c'est là que j'explose avec près de 250 matchs joués avec notamment un titre de champion de France en 2011.
Salut, Rami.
Perdu. Après ce titre, je décide de partir en première ligue à Newcastle où je dispute plus de 90 matchs pendant 3 ans. T'avais pas besoin de jouer. Milieu de terrain technique, je reviens en France en janvier 2014 au PSG. C'est Cabaye. C'est ça, un passage en demi-teinte où je n'arrive pas à m'imposer. Je reste un an avant d'être vendu à Crystal Palace, où je suis titulaire et même capitaine. J'avais dit un nom par personne. Longtemps pressenti à Marseille, je décide de rejoindre cet été Dubaï et le club d'Al Nassr. Je suis Johan Cabaye, effectivement. T'aurais pu jouer, hein, Sarah. T'aurais pu sauver Sébastien qui attendait ton
prix. T'as compris, Sam, toi, la règle du jeu?
La règle du jeu.
Je donne la bonne réponse et j'ai pas le point.
Et j'ai compris qu'on mène pour l'instant.
Il fallait écouter. Un nom, j'avais dit un nom éliminé, mais il y avait encore des gens dans ton équipe. C'est pas grave, il y a 2-1, vous pouvez encore jouer, il faut aller vite. Il y a encore deux noms, hein.
Tu avais donné
Rami, donc t'étais éliminé. C'est parti. Je suis argentin, j'ai 27 ans, formé à Estudiantes La Plata. Perdu. En Argentine, je sais pas qui a dit ça. Je rejoins l'Europe et la Liga en 2015. L'AS Monaco, attaquant d'1m91 avec un bon jeu de tête. Carillo, c'est bon, 2 buts partout. Allez, ça va être décisif sur le dernier, c'est parti. C'est Guillaume Carillo, effectivement, qui a rejoint Southampton la saison dernière, qui dispute 7 matchs et qui va découvrir aujourd'hui la Liga avec Leganés. Attention, pour vous départager, Sébastien, François et Sarah.
Subuteo et le Perudo, hein.
Et puis Vincent et Sam de l'autre côté. C'est pour gagner le Perudo. Non, le Subuteo, c'est pas comme ça qu'on gagne, mais pour gagner le Perudo. J'ai 24 ans, je suis international marocain, je suis né à Paris. C'est à Angers que je suis formé. Je me révèle en Ligue 2 avec le club angevin. Milieu offensif, je joue souvent sur le côté gauche et j'aime dribbler. En janvier 2015, auteur d'une bonne demi-saison en Ligue 2, je suis recruté par le LOSC pour 4 millions. Et
non,
demi.
Non, non, non.
Après une bonne saison et demie, je suis transféré à Southampton.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as dit?
Bouffal.
Qui a dit ça?
Bouffal. Sofiane Bouffal, Vincent.
C'est Vincent.
Bien joué.
Vincent a gagné.
Yes, Vincent.
A gagné avec Sam. Bravo.
Bien joué,
Sam. Yes, Vincent. Hey, yes, Vincent. Il a pas filé une réponse.
Tu rigoles,
yes,
moi,
Vincent.
Bravo, Vincent.
Et moi, je file une réponse, je ne donne pas le point.
Sofiane Bouffal a été recruté par le Celta Vigo cette
quand
saison.
Quand je dis qu'il n'y a que des escrocs dans le monde du foot.
Sébastien, bravo quand même. Je sais pas si on peut t'offrir un t-shirt de l'After, tu verras ça.
Ouais.
Merci en tout cas d'être passé par AFC dans l'After. Bravo Vincent, vainqueur d'un Perudo, donc le jeu préféré des champions du monde. Tu joueras tout l'été grâce à RMC. Merci Sam, merci François, merci beaucoup Sarah.
On se retrouvera
évidemment cette semaine dans l'After. Demain, c'est Jean-Christophe Drouet qui sera là pour l'After 21h-23h. Bonne soirée à tous sur RMC. Et bonne nuit. Ouais, à bientôt.
Vous êtes une bande d'escrocs.
RMC, le super football show, l'After Foot.